Vous écoutez France Culture.
Nous retrouvons depuis Montpellier Olivia Jesbert pour la grande table d'été. Bonjour Olivia.
Bonjour Stéphane, merci beaucoup. On est effectivement aujourd'hui en direct de Montpellier et plus ou mieux, ou si on zoome encore un peu, on est même en direct de la cour du musée Fabre. Bienvenue à vous, c'est parti. Prenez place autour de notre grande table d'été via votre poste de radio sur les sièges de la cour du musée Fabre, non loin de la place de la Comédie, si vous êtes de passage par ici. Ce midi, variation autour de la forme avec l'artiste peintre Claude Viala et Michel Hiller, directeur du musée Fabre et commissaire de la rétrospective qui lui est consacrée. Un peu plus tard, le violoncelle touche-à-tout de Gaspard Claus et le violon flâneur de Marina Chiche avec leurs interprètes. L'un sera ce soir au festival Voix Vive de Sète, l'autre se produira demain à l'Opéra Berlioz avec l'Orchestre National de Montpellier, dirigé par Enrique Mazzola dans le cadre du festival de Radio France. Mais la grande table d'été, vous le savez, c'est aussi des chroniques d'art contemporain. Il sera aussi question dans À première vue d'Aude Lavigne, Virginie Yassef, artiste plasticienne et l'invité d'Aude Lavigne. Et de théâtre, avec un dernier rendez-vous à Avignon, Thomas Ostermeyer met en scène le mariage de Maria Braun, inspiré du film de Fassbinder, ce qu'il nous dit de l'Allemagne d'aujourd'hui à travers cette pièce. Ostermeyer au micro de Joël Gaillot avant que le rideau ne tombe sur Avignon. On est ensemble jusqu'à 14h. Et on ouvre tout de suite cette grande table d'été en musique avec une sarabande pour violon de Bach interprétée par Marina Chiche.
Thank you.
Marina Chiche en concert demain soir à l'Opéra de Montpellier. On vous laisse vous reposer un peu, votre violon, votre archet aussi, grignoter aussi un peu de sucre. Et on vous retrouve dans une petite demi-heure autour de la grande table d'été. La grande table d'été où nous attend Claude Viala. Bonjour monsieur. Un artiste et d'abord un artisan qui travaille la matière, les surfaces, les formes. Avant de vous entendre raconter, on aimerait vraiment beaucoup votre approche artistique, d'où vous venez, comment votre pratique a évolué. Je vous propose de redevenir, comme nous, un simple visiteur de la rétrospective qui vous est consacrée actuellement au musée Fabre. Derrière Michel Hilaire, qui en est le commissaire et qui est également le directeur du musée, une balade grandeur nature pour faire connaissance et se familiariser avec votre œuvre et ce beau musée Fabre qui la abrite jusqu'au 2 novembre. Michel Hilaire, quand on entre dans le musée Fabre, on est tout de suite, on arrive, on est nez à nez avec Claude Viala.
On est nez à nez avec Claude Viala et c'est vrai que c'est une volonté de notre part d'installer dans ce hall Buren des œuvres emblématiques du travail de Claude Viala. Parce que le travail de Claude Viala est un travail surabondant, on sait que c'est un artiste qui travaille dans l'excès, qui travaille beaucoup, qui produit beaucoup, et qui donc est dans un système qui finalement peut-être a commencé en 1966 et qui est encore ouvert dans le présent, aujourd'hui, d'ailleurs depuis la fin de l'exposition, c'est-à-dire la fin du choix de l'exposition, il travaille, et son travail, m'a-t-il dit, se déplace encore ailleurs. Donc dans cette profusion, dans cette surabondance, dans cette liesse aussi du travail de Claude Viala, dans cette immersion dans la couleur, on a un artiste un peu particulier dans un musée des beaux-arts traditionnel. Donc il fallait trouver une manière de comprendre que Claude Viala intervient de façon forte, un peu coup de poing même, dans ce musée. Non pas pour le chambouler ou le bousculer trop, mais quand même pour montrer qu'il s'est construit aussi contre la peinture traditionnelle. Hein, c'est une déconstruction de la peinture traditionnelle qu'il mène à partir de la fin des années 60. Et ce travail absolument ouvert sur l'espace, sur la couleur, eh bien je voulais qu'on le voit, qu'on le sente dès la billetterie. Et là, on a installé en effet des pièces très colorées, en volume, là, ce taux de bateau avec ses couleurs moirées dans les nuances de vert et de rouge, une autre beaucoup plus solaire avec un jaune paille, ses rouges. Il y a quelque chose de très matissien. Dès qu'on arrive ici, on est vraiment dans la couleur de Matisse et on est aussi dans les supports, dans la variété des supports, parce que le travail de Claude Viala, c'est vraiment ce jeu entre la forme, de contre-forme et aussi l'aventure du support, parce qu'on voit que d'emblée, il y a des supports qui se sont présentés à lui, puisqu'il stocke en permanence, il récupère, et selon les jours, selon son inspiration, bien sûr, il tire un support et il le marque, parce que son travail, c'était vraiment un système de marquage, avec cette forme, ce haricot, comme certains l'appellent, et bien sûr, il y a ce jeu de couleurs entre ce haricot, l'interforme, et puis aussi la forme qui est donnée, parce que Claude Viala accepte totalement la matérialité du support. Donc là, on voit que cette grande bâche est déjà festonnée. Hein, c'est des parasols de marché, des tentes, comme ici, c'est une tente militaire. Alors on reconnaît que toutes les boucles, toutes les brides, tout ce qui fait vraiment la spécificité, la matérialité de ce support, Claude Viala ne cherche pas du tout à le gommer ou à l'enjoliver. Hein, il l'attaque directement de son support.
Question un peu naïve, pour moi qui ne suis pas aussi connaisseuse que vous, ça a vraiment servi à faire des tentes ou ces taux de bateaux ont aussi été sur des bateaux?
Absolument.
Ou c'est simplement un choix de matière, de support pour y peindre?
Ce sont vraiment des supports qui ont déjà une histoire, qui ont vécu. Le passage du temps est marqué sur ces supports. Claude Viala accepte même les lacunes, les accidents de ces supports. S'il y a des trous, éventuellement il s'amusera à faire une espèce de rapiéçage, mais extrêmement sommaire. Mais toutes les lacunes, toutes les données du support sont prises en compte dans son travail. Et d'ailleurs, parfois même aussi la tonalité de base de ce support. Si ce support a été exposé par exemple à la pluie, s'il est marqué avec des moisissures, Claude Viala va aussi l'accepter. Et c'est même parfois ces données-là qui vont orienter son travail dans tel ou tel sens et qui vont aussi lui indiquer la palette qu'il va choisir.
Et alors, un tow de bateau, pour celui qui n'est ni matelot ni sirène, c'est une voile?
Non, c'est simplement une manière de recouvrir, comme une espèce de housse, une bâche voilà, qui recouvre effectivement certains bateaux. D'ailleurs, on a un autre tow de bateau extraordinaire dans la cour Richier, qui présente dans l'exposition les œuvres monumentales de Claude Viala. Cette salle ici, la salle Richier, pourrait se voir d'emblée, mais normalement dans l'exposition, elle est faite pour être vue en dernier. C'est le dernier chapitre de l'exposition, l'étoile monumentale. D'emblée, j'avais dit à Claude Viala que, en dehors des salles, des galeries d'exposition temporaire, on avait cette cour Richier, qui est une cour magnifique avec un éclairage naturel et qui fait plus de 15 mètres de haut. Et là, bien sûr, Claude Viala a pu déployer des œuvres monumentales. Là, par exemple, ce tow de bateau, encore un, de 9,50 mètres de haut, qui a été réalisé par Claude Viala dans un atelier qu'il avait au Pont du Gard en 2012 et qui d'ailleurs a été pensé un petit peu pour ce lieu. En face, on a une toile de cirque, une tente de cirque qui est absolument gigantesque. Elle a pu prendre la pluie, mais ça, Claude Viala l'accepte totalement. Les passages du temps dans son travail sont tout à fait acceptés par lui.
Et la toile est un peu passée, la couleur est un peu
absolument.
Passée.
Il a, par exemple, exposé certaines de ses toiles au soleil, hein, les fameuses solarisations qui datent de l'époque de Support Surface. Il y en a d'ailleurs dans l'exposition au premier étage. Des toiles aussi brûlées, des toiles enterrées. Enfin, donc, tout ce travail est vraiment important pour la recherche de Claude Viala. Et alors, derrière nous, une toile un peu unique, un peu singulière, mais qui est probablement une des toiles les plus fortes, les plus belles de Claude Viala, qui date de l'époque de la Biennale de Venise, quand il avait eu la responsabilité du pavillon français en 1988, et il l'avait conservée en deux parties, et avec cette coloration, avec ses jaunes, ses rouges, ses bleus, et en même temps quelque chose de scintillant, de chaleureux, de mordoré presque, qui rappelle bien sûr l'art de Venise, puisqu'à ce moment-là, il a beaucoup regardé l'art vénitien, titien, véronèse, et ça a beaucoup modifié son travail.
15 mètres de hauteur, c'est 10 auditeurs de France Culture, 10 auditeurs de taille moyenne, hein, environ. Autant dire, effectivement, la hauteur de cette cour, cette salle que l'on vient de visiter, et l'ampleur, la démesure des toiles. Hein, ça, je sens que ça va être le maître mot de cette exposition, ça va être démesure. Hein.
Il y a vraiment une carte blanche pendant cet été 2014 qui est faite à Claude Viala.
Claude Viala, peintre de la démesure. Une première étiquette qui vous convient, même si vous devez les refuser les unes après les autres?
Je peins tous les jours, à peu près une toile, au moins une toile par jour. Ça fait partie d'un système et c'est aussi une manière de penser la peinture et de la faire évoluer assez rapidement. Il faut que les choses soient toujours dans un déplacement, même si c'est un déplacement qui est spiralé, qui revient sur lui-même dans le temps et dans l'espace. Mais c'est vrai que mon travail est un système de travail qui prend la quantité comme un paramètre important. C'est aussi un paramètre qui est important dans la peinture, puisque en fait, ce qui fait la valeur de la peinture, c'est sa rareté. Donc c'est un peu une manière de prendre l'inverse, de travailler l'inverse. Et c'est vrai que l'inverse, je l'ai travaillé un peu dans tous les sens. J'ai travaillé des toiles qui fanaient au temps, que le temps donc modifiait. Je travaille avec des matériaux qui sont usés, quelquefois maculés, soit de fientes d'oiseaux, soit de par la calamine, hein, quand c'est des tentes de café, et j'essaie de faire en sorte que cette crasse du temps devienne la couleur la plus suave, la plus somptueuse qui soit. C'est-à-dire, je prends les choses à l'envers en essayant de les nourrir de l'intérieur.
Claude Viala, on entendait dans cette balade, au cœur de cette rétrospective qui vous est consacrée jusqu'au 2 novembre au musée Fabre de Montpellier, on entendait Michel Hiller, le directeur du musée et commissaire de cette exposition, évoquer aussi ce dialogue permanent que vous avez tenu à garder avec d'autres artistes, avec vos contemporains. Évidemment, on a cité Daniel Buren, puisque quand le visiteur entre dans le musée, il est tout de suite nez à nez avec vos grandes toiles qui se confrontent ou qui contrastent avec ce sol signé Buren. Ça, c'était important pour vous de garder le contact, de ne pas s'isoler, de nourrir votre peinture et votre démarche par ce dialogue avec les autres artistes, avec d'autres artistes.
Je pense que, de toute manière, j'ai été très lié à Daniel Dezeuze et à Patrick Sétour, essentiellement au moment de Support Surface, et que notre travail continue à avancer en parallèle. Et je continue à avoir énormément d'estime pour leur travail. Daniel Buren, je l'ai rencontré, il fut un temps où je l'ai rencontré, mais j'avais plus d'affinité avec Parmentier qu'avec Daniel Buren. Mais de toute manière, leur travail me nourrit aussi. Hein. Je ne suis pas innocent. Je vais, si quelque chose m'intéresse quelque part, je n'hésite pas à me l'approprier.
Oui, il y a les contemporains, mais il y a aussi ceux qui vous ont précédé. Vous avez cité, ou Michel Hiller a cité déjà Matisse.
Matisse, Picasso, mais mes contemporains aussi. Je veux dire, dans le travail qu'ils font, il y a souvent des choses qui déclenchent, qui peuvent déclencher une idée qui vous emmènera sur un... L'essentiel, c'est que on tire les fils successifs des idées et que on ne les perde pas de vue et qu'on les retrouve dans le temps et dans l'espace.
C'est étonnant de vous entendre tout à l'heure parler de système pour un artiste. Les artistes sont forcément aussi un peu rebelles. Comment vous décririez du coup ce système dans lequel vous avez choisi de vous inscrire, si on met le doigt au centre, au cœur de ce système?
Je travaille avec une forme qui n'a aucun intérêt, sinon d'être une forme pour toutes les formes. Elle n'est pas géométrique, elle n'est pas figurative, pas représentative, pas vraiment décorative et pas symbolique.
Bon, donc, le système, c'est la forme, alors.
Tout ça, ce sont des qualités, mais ce sont les qualités de la forme. Maintenant, c'est une pour toutes les autres. En fait, c'est essentiellement le système qui la sous-tend, qui est important, le principe de forme, de contre-forme, de rapport de couleur, de rapport d'intensité, de rapport de matière entre que la couleur engage et permet, et la forme à ce moment-là ne devient qu'un prétexte, comme une brique sert à faire des murs.
Claude Viala, vous vivez aujourd'hui à Nîmes, mais ce retour à Montpellier n'est pas anodin, puisque vous avez été formé à l'École des Beaux-Arts de Montpellier. Dans les années 50, vos premiers tableaux sont d'ailleurs d'une facture plus académique, peinture figurative, paysage, nature morte. Elles ouvrent l'exposition, ces peintures, avant de laisser place très vite au début de la forme que nous raconte Michel Hiller.
Dans cette exposition, dans cette salle, on a la première toile qui résume, qui est une toile de collection particulière d'ailleurs, qui résume ses recherches à ce moment-là. Alors on voit qu'il a découpé dans une mousse de polyuréthane une forme avec un côté qui est un peu trilobé. Et puis il a appliqué à différentes reprises, il a tamponné, on peut dire, cette forme à différentes reprises sur la partie haute de la toile. Et puis il a essayé de nettoyer cette plaque de mousse et finalement il a laissé tremper. Et comme elle était encore imprégnée de couleurs, il l'a laissé tremper dans la javel et la javel a attaqué cette mousse de polyuréthane et finalement a donné avec tous les côtés un peu rognés, un peu mangés, a donné cette forme qui ressemble à ce fameux haricot qui est devenu l'image de marque aujourd'hui de Claude Viala. D'ailleurs, on reconnaît ces haricots dans la partie inférieure de cette toile. Donc c'est vraiment là une toile de basculement, une toile emblématique. Et après, on voit que ce haricot s'organise d'abord de façon un peu confuse. Hein. Il y a le haricot voltige un peu dans tous les sens sur la surface de la toile libre. Et puis progressivement, il va trouver ce rythme, cette scansion qui est la sienne et qu'il a adoptée finalement à partir de la fin des années 60 et qu'il d'ailleurs l'occupe encore aujourd'hui, hein, puisque Claude Viala travaille encore avec le système qu'il a trouvé, qu'il a inventé au milieu des années 60.
Voilà, on quitte à nouveau les murs du musée pour être dans sa cour, hors les murs, avec le ciel plutôt clément aujourd'hui, hein, au-dessus de nos têtes, Claude Viala, une forme sans forme, un haricot, comme on l'a parfois appelé, comme l'évoque à l'instant Michel Lillère, qui est aussi à mes côtés. Michel Lillère me disait également que vous aviez été quelque part, alors je ne vais pas trahir vos propos, Michel, sommé, mis en demeure par l'époque, d'inventer cette forme, d'imprimer peut-être aussi votre marque ou de chambouler les codes plus académique qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce que vous, Claude Viala, rétrospectivement, vous validez cette sommation extérieure? Est-ce que pour vous, ce processus d'invention de la forme est né de l'extérieur avant d'être une exigence personnelle?
Avant de travailler cette forme, j'avais une peinture qui était un peu une salade niçoise. C'est-à-dire que je me trouvais dans les pas de tous les autres peintres de mon époque. Et que j'ai vu un jour présenter à la Fondation Mag une grande exposition qui s'appelait 20 ans d'art contemporain et qui était où tous les peintres avaient fait mieux que moi ce que moi j'essayais de faire de manière un peu poussive. Donc il fallait que je prenne les choses complètement à l'envers et c'est à ce moment-là que j'ai essayé de repartir En travaillant de la manière la plus maigre qui soit et au lieu de superposer les couches peinture, essayer de travailler sur un tissu cru avec une ou deux couleurs de manière très, très stricte. À ce moment-là, il y a un texte qui est paru qui était très important, qui était le dernier tableau de Tarabukine, qui était un peu la fin de l'art, qui marquait la fin de l'art. Et la fin des années 70, le début des années 80, a été beaucoup marquée par cette idée de la fin de l'art. Donc si l'art était fini, si la dernière image était faite, il fallait repartir et reconstruire quelque chose. Et j'ai essayé à ma manière de déconstruire et de reconstruire quelque chose.
Alors sur les cendres de l'art, la forme quelque part est née à la fin des années 60. Aujourd'hui, on est en 2014. Est-ce que vous diriez, Claude Viala, que cette forme vous a à un moment pesé, encombré dans votre vie d'artiste? Est-ce que vous avez cherché à vous en débarrasser ou à la dépasser?
À certains moments, elle était pesante dans la mesure où elle devenait, on prenait ça en compte plutôt comme une image de marque. Mais en fait, il y a eu toute une période que Bernard Cesson a appelée la période pourrie où j'ai essayé de m'en débarrasser, d'en modifier, soit en superposant et en la faisant se dissoudre dans l'épaisseur des toiles, soit au contraire en la brûlant, soit en essayant de la faire... De la laisser se modifier par la capillarité. Enfin, j'ai essayé un peu toutes les possibilités possibles.
Mais vous avez beau essayer de la brûler, de la malaxer,
elle a
survécu
tout,
à tout.
Ouais.
Et puis cette forme.
Je me suis rendu compte que c'était un faux problème parce que j'étais braqué sur la forme alors que c'était un principe de forme et de contre-forme et que c'était un système qui pouvait être binaire, ternaire, quaternaire et qui me laissait au contraire beaucoup de possibilités.
Michel Hilaire, il faut nous expliquer ce qu'est l'autre particularité. Alors, on ne va pas dire marque de fabrique, puisque Claude Viala vient de nous dire qu'on a essayé de lui mettre cette image de marque à travers sa forme, de le graver sur son front. Ce que c'était que ce principe du surface-support ou des surfaces sans support qui a aussi marqué et délimité d'une certaine manière l'œuvre de Claude Viala.
Effectivement, il y a cette remise en cause de la peinture traditionnelle au moment de support surface, donc le terme qui a été, je crois, inventé par Vincent Bioulès dans le village d'origine de Claude Viala, à Aubé, dans cet été 1970 qui précède la grande exposition de l'Arc qui va s'ouvrir tout de suite à la rentrée de 70. Et il y a effectivement l'idée d'avoir des surfaces colorées. On n'est plus dans la toile tendue sur châssis, une toile préparée avec tout le métier. Il y a vraiment cette remise en cause du métier traditionnel et bien sûr aussi du sujet. Donc il y a aussi une volonté de désacraliser, je crois, à ce moment-là, vraiment l'art. C'est-à-dire que tous ces jeunes peintres se sont quand même constitués face au musée, à l'institution muséale, qui était souvent, qui d'ailleurs souvent les rejetait. Hein, ils n'avaient pas forcément les cimes de ces musées à leur disposition. Et puis les galeries aussi, le système, les réseaux commerciaux, de spéculation, de cotes, etc. Donc, et il y a aussi cette volonté d'exposer ou de montrer ces surfaces, ces matériaux, c'est la matérialité d'un support, tout simplement, dans l'extérieur aussi. Hein. Il y a un éclatement aujourd'hui, on est dans un musée, bien sûr, mais à l'époque, il y a pu y avoir, dans période qui précède Support Surface, il y a eu un éclatement des lieux d'exposition en extérieur, dans le midi de la France, par exemple, une plage, on n'est pas loin ici de Maglone, de Palavas, donc là, il y a eu des tentatives dans des lits de rivière, sur des places de village, à Serré, etc. Donc il y a vraiment une remise en cause, précisément à cause des matériaux eux-mêmes et de la manière de travailler ces matériaux, de les utiliser. Il y a une remise en cause des procédés traditionnels qui avaient vécu depuis l'origine de la peinture. Hein. Donc c'est une période vraiment de transition qui est... On dit souvent que Support Surface a été le dernier mouvement de contestataire de l'art français, qui d'ailleurs correspond un peu à la période de 68, hein, de mai 68. Mais c'est vrai, quand on se replonge dans cette époque, qu'il y a quand même une fracture, une vraie contestation qui est extrêmement, finalement, joyeuse et stimulante aussi, quand on considère cette époque rétrospectivement. Et d'ailleurs, je crois qu'une partie de l'exposition, surtout le début, la période de Support Surface, communique ce sentiment aux spectateurs.
Il est très prolixe, hein, Michel Hiller, quand il parle de vous, hein, Claude Viala.
Oui.
Mais il vous a bien compris ?
Oui, on s'est très bien entendu. Ça a été vraiment une épreuve en commun, parce que aborder le musée avec son poids d'obligation et en définitive la manière dont mon travail impose de l'accrocher, et c'était quelque chose qui pour lui devait être assez difficile d'accepter. Et il m'a laissé carte blanche et je l'en remercie beaucoup.
La fabrique d'une œuvre, ça c'est aussi intéressant, Claude Viala. Vous avez travaillé à partir de bâches, de parasols, de tentes militaires. Qui vous fournissait tous ces matériaux? Est-ce que c'est vous qui les choisissiez ou est-ce qu'ils venaient à vous d'une certaine manière et vous faisiez avec?
Non, vous savez, je suis un opportuniste.
Pas un commanditaire.
Quand on me porte un support, je ne peux pas résister au plaisir de le travailler quel qu'il soit, et d'essayer de le tordre. Il faut que j'arrive à dominer les difficultés. Et les supports, on me les a donnés. Je dois à Jean-Louis Froment toute une série de tentes militaires. Je dois à Jacques Arnoux les grandes toiles, les grands tours de bateaux qui sont exposés dans la cour Richer et dans le hall Buren. Donc les gens m'emmènent, plutôt que de mettre leur rebut aux ordures, me les ramènent à la maison. Et j'essaie de travailler, de faire de ces rebuts des choses pour moi précieuses.
Il y a aussi les toiles, mais il y a aussi les bois.
Il y a des bois, il y a des morceaux de bois, des morceaux de
cordes,
ficelles.
Évidemment.
Ficelles, oui, des choses très, très précaires. Et la plupart de mon travail est d'ailleurs très immédiatement lisible. On voit la manière dont les choses sont faites. La couleur du support est toujours primordiale et il y a en général une couche dessus. Quand c'est un bois qui est laissé tel que, qui a été corrodé par le temps, et les ficelles qui servent à le travailler sont vraiment des ficelles de peu.
La précarité, ça c'est aussi un mot très important pour vous, l'immédiateté, oui, la précarité. Oui. J'ai dit à Michel Hilaire durant notre visite de l'exposition, moi j'ai eu le droit à une visite guidée et avisée, mais pourquoi est-ce qu'il n'encadre pas ces toiles? Ça permettrait de les préserver, de les mettre sous verre notamment, et puis de les montrer autrement. Et connais-je pas dit quand j'ai dit ça hein?
Oh, surtout pas, non, elles ne sont pas faites pour être encadrées. Par contre,
pourquoi elles ne sont pas faites pour être encadrées?
Parce que ce sont des toiles qui sont libres, c'est du tissu qui joue avec ses plis, qui joue avec l'air qui passe. Qu'une toile soit accrochée au mur et prenne un courant d'air et de suite il y a une ondulation qui se fait, c'est pour moi très important. Il faut que la toile soit physique, qu'on la ressente physiquement. Je sais qu'on est dans un musée, mais moi, ça ne me gêne pas qu'on touche les toiles, ce qui est interdit dans les musées.
Ce qu'a fait Michel Hilaire et les gardiens du musée ont fait des grands yeux. Hein. Vous voyez, même quand on est directeur, on n'échappe pas au regard.
Non, mais pour moi, c'est une jouissance physique. C'est essentiellement cette matérialité qui est importante et que j'entends préserver à tout craint. J'ai très peu exposé aux États-Unis parce que d'emblée, quand j'ai exposé à la galerie Matisse, puis dans d'autres galeries aux États-Unis, quand on m'a proposé les expositions, ils m'ont demandé de tendre les toiles et j'ai refusé. Et en fait, mes toiles ont eu très peu de succès aux États-Unis. Je crois qu'à partir, à part la galerie Matisse, il n'y a pas eu vraiment de galerie. À part la galerie Scheimann Reed qui a fait une exposition puis qui s'est un peu découragée, j'ai pas eu d'exposition aux États-Unis parce que c'est pas dans l'esprit des États-Unis. Les toiles entendues ne sont pas dans l'esprit des États-Unis. Par contre, au Japon et en Corée, cette matérialité, cette précarité de la toile est au contraire mieux accepté.
Et certaines imperfections aussi. Je voyais des toiles où vous avez fait des rajouts cousus main. D'ailleurs, certaines coutures commencent à lâcher légèrement. Si vous voulez m'embaucher, je viendrai faire
couture,
des surpiqûres.
En général.
Là, justement, vous acceptez sur des toiles, une fois que vous les avez terminées, le défaut que le temps va peut-être entraîner.
Oui, bien sûr. Mais la couture, ce n'est pas moi. Moi, je ne coupe pas.
Mon Dieu, c'était madame.
Non, même pas. Non, non, si la toile est cousue, elle est cousue avant que je la prenne. Moi, je raboute, je colle, je colle mes toiles les unes aux autres avec le principe du rentoilage traditionnel, c'est-à-dire en mettant de la couleur sur la toile de dessous et sous la toile de dessus et en joignant les deux surfaces.
Ces coutures, c'était effectivement cette aventure qui, des années 70, quand Claude s'installe à Marseille, il rencontre une bachère, cette Madame Candotti, à qui il demande d'assembler ses toiles. Donc elle avait des chutes de toiles, donc de différentes couleurs, avec des imprimés différents, et il lui commandait par exemple, une toile de 3 mètres sur 2, et elle, effectivement, elle l'assemblait, elle cousait ses chutes. Et après, Claude travaillait ses supports. Mais c'est effectivement pas lui qui les assemblait.
Michel Hilaire, on évoquait New York, le passage, la vie américaine des toiles de Claude Viala, également sa vie ou leur vie, leur voyage au Japon, en Corée. Il y a quand même, à travers cette rétrospective, on le voit bien, une influence importante aussi des arts primitifs, hein, d'une culture primitive, à la fois des Indiens d'Amérique.
Les Indiens d'Amérique, hein. Ça a beaucoup compté pour lui. Effectivement, au début des années 70, il a fait ce voyage à New York, enfin aux États-Unis, et c'est vrai que c'est les boucliers indiens, tout ce travail qu'on retrouve aussi dans les cerceaux.
Hein, il y a des pièges à rêve.
Pièges à rêve, et puis aussi certaines techniques africaines, cette manière aussi, par exemple, de dans la forme, puisque dans les années 90, on voit qu'il y a une technique un peu sommaire de pointillés sur, à l'intérieur de la forme, ça rappelle aussi cette, certaines techniques de certains.
Oui, ou des techniques de batik. Oui, je prends mon travail va piquer partout, il va taper partout. Tout ce qui peut m'intéresser, je le prends. Et c'est plus dans l'histoire des civilisations, en fait, que je vais piocher que seulement dans l'histoire de la peinture.
Dans l'histoire de la peinture, quand même, avec les hommages, puisque oui. Dans l'exposition, oui. Il y a beaucoup d'hommages, en particulier à Matisse. Mais Matisse n'est pas le seul grand peintre à qui Claude Vialat a rendu hommage. Il y a eu des hommages à Chabot, à Braque, à Picasso, bien sûr.
À Giorgione.
À Giorgione. Je parlais tout à l'heure des grands maîtres vénitiens aussi, au moment de la Biennale de Venise. Mais Matisse est celui qui revient le plus souvent.
Claude Vialat, le noir n'est vraiment pas une couleur pour vous. Hein. Vous êtes
si. Ah si si, le noir est une couleur. Oui 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 oui. Non, moi toutes les couleurs sont bonnes. Hein. Que ce soit la couleur du support ou que ce soit la couleur que je vais mettre dessus, noir sur noir, c'est magnifique. Non, il n'y a rien qui m'est interdit.
Il y a des toiles noires, d'ailleurs, des tissus kitsch, oui. À la fin de l'exposition, qui sont effectivement noires, à peine pailletées de quelques petites fibres argentées, mais il y a effectivement des supports noirs.
Mais vous êtes aussi vraiment un peintre des couleurs chaudes, des couleurs du Sud, peut-être. Hein. Quand on voit le monde comme vous, en couleurs, qu'on communique à travers elle aussi, ses émotions, son intelligence, un parti pris de la vie, qu'est-ce que ça nous dit de vous ? Est-ce que vous êtes au fond, Claude Vialat, un homme profondément coloré, heureux ?
Oh, je suis heureux, oui. Je suis très heureux. J'ai une vie très, très agréable. Je peux travailler chaque jour, ce qui est extraordinaire. Et je me suis donné les moyens de faire ce que je voulais, ce qui n'est pas donné à tout le monde.
Claude Vialat, Michel Hilaire, dans quelques minutes, le violoncelliste Gaspard Claus et la violoniste Marina Schisch seront invités à nous rejoindre autour de notre grande table d'été pour une flânerie musicale dans votre cour, dans la cour du musée Fabre de Montpellier. Mais d'abord, si vous le voulez bien, à première vue, oui c'est bien ça, il est déjà 13h21 sur France Culture, l'heure de retrouver la chronique de Haut-de-la-Vigne. Chaque jour, un acteur du monde de l'art contemporain se raconte à travers l'œuvre qui lui a donné envie de faire ce qu'il fait et d'être ce qu'il est. C'est à première vue, ce midi, avec Virginie Yassef, plasticienne et vidéaste, au micro de Haut-de-la-Vigne.
Virginie Yassef est plasticienne, sculpteur. Elle réinvente des formes minérales ou animales. Elle s'amuse à transformer le réel et son regard agit comme par magie, un petit signe peut devenir une vaste griffe. Magicienne, donc, elle peut aussi faire voler des cailloux. Au téléphone, Virginie Yassef répond à notre question. Quelle œuvre est à l'origine de son goût, de sa vocation, de sa sensibilité pour l'art contemporain ? Et à première vue, Virginie Yassef, vous nous répondez.
En fait, je n'ai pas l'idée de vous répondre à partir d'une œuvre, mais plutôt à partir d'une expérience qui n'a aucun rapport avec une œuvre, en fin de compte, ni d'art contemporain, ni d'art en général, et qui est l'expérience d'une sorte de mise en scène du jeu lorsqu'on est enfant. Pratique quotidienne, je dirais, dont je me souviens avec beaucoup d'émotion, parce qu'en fait, j'ai vraiment le sentiment que c'est là que ça s'est passé, et que c'est ça qui a déclenché ma manière de travailler, en fait, c'est-à-dire qui a déclenché le fait de toujours avoir le désir d'échafauder des scénarios, et des scénarios d'ordre fantasmagorique, c'est-à-dire des sortes de rêves éveillés. En fait, c'est vraiment ce principe-là qui déclenche et qui fait évoluer tous mes projets en général. Ensuite,
quel est donc ce jeu d'enfant ?
Le jeu n'a pas d'identité particulière, bien que je peux me souvenir de certains d'entre eux, mais c'est plus pour moi le fait d'avoir réalisé que ce jeu pouvait être une identification à ma manière de travailler. comme artiste aujourd'hui dans l'art contemporain.
Virginie Yassef, parlons donc de jeu, parlons donc peut-être de l'origine de l'émotion, de la vocation. Tentons de devenir peut-être, qui sait, des gens qui aimeront l'art. Et si on inventait, si vous inventiez, si vous nous proposiez plutôt, à présent, un espace de jeu, qu'est-ce que ce serait ?
En fait, un espace de jeu dépend pour moi d'un contexte. Et si j'imagine un contexte possible pour un jeu maintenant, aujourd'hui, ce serait d'imaginer que nous sommes dans une forêt et que nous croisons, rencontrons un arbre dans lequel ou sur lequel nous pouvons voir une poignée de porte. Ce qui fait qu'on peut imaginer qu'en tournant cette poignée, on pourra pénétrer dans cet arbre et grimper dans le tronc. Ça, ce serait un exemple de la manière dont j'aborde en fait les projets dans mon travail.
Virginie Yassef qui s'applique elle aussi à réinventer les formes minérales ou animales. Si vous voulez jouer avec Virginie Yassef, ouvrir la porte de cet arbre, n'hésitez pas, rendez-vous tout de suite à la page de la chronique à première vue sur franceculture.fr. À suivre le journal d'un festival de Joël Gaillot qui reçoit ce midi Thomas Ostermeyer et nos invités, la violoniste Marina Chiche qui a pris ses quartiers d'été à Montpellier et Gaspard Klaus qui va nous interpréter tout de suite Tom is still dreaming, accompagné de son violoncelle. Il était lundi sur scène à 7 avec Angélique Ionatos et Katerina Fotinaki, compositrice et chanteuse grecque. Il y sera encore ce soir et demain à 15h pour une sieste par son et par mot, une lecture poétique et musicale en transat avec notamment l'irakienne Salah Faik dans le cadre de Voix Vive de Méditerranée, un festival qui fait la part belle à la poésie et qui se termine déjà demain. Alors courez-y si vous êtes dans la région, comme le festival de Radio France à Montpellier d'ailleurs. À vous de jouer, Gaspard Klaus. Thank you.
Gaspard Claus et son violoncelle que nous appellerons Tom pour l'occasion, une musique un peu vaudou, voilà ce que moi j'ai interprété, compris, un appel à l'orage qui devrait peut-être être entendu puisque la pluie est prévue à partir de 14h ici sur Montpellier. Marina Chiche, qu'est-ce que vous avez entendu dans ce que vient de nous jouer, interpréter Gaspard Claus à l'instant avec son violoncelle?
Moi ça m'a fait vagabonder. Donc j'ai pas absolument identifié exactement les paysages, mais j'ai voyagé.
Merci.
Gaspard Claus, à qui ou à quoi pensiez-vous, vous, en jouant à l'instant? Les yeux étaient fermés.
Les yeux sont... Oui, je ferme les yeux. Merci pour me mettre l'orage sur les épaules. Désolé.
Ça va sur celle de votre violoncelle, vous inquiétez pas.
C'est pas une question simple. Je pense pas à quelqu'un ou à quelque chose. Je pense qu'on joue. J'ai plutôt la sensation, et j'ai eu l'impression de voir ça chez Marina tout à l'heure quand elle interprétait sa sarabande, que c'est presque une décorporalisation. Ça se passe au-delà de. C'est un lieu qui est au-delà de soi auquel on touche. Mais enfin, ça me concerne. Je suis pas inspiré par. Si je suis heureux, je joue pas différemment que quand je suis malheureux. Ou c'est pas lié à la vie que je mène et aux gens qui m'entourent. La musique que je joue, c'est la musique. C'est un espace qui suit de la musique.
Mais quand je vous demandais ce que vous alliez nous jouer, vous m'avez dit je vais improviser. Je sais pas encore. Vous savez au moment où vous commencez à jouer ce que vous allez, là où vous allez nous emmener ou pas du tout?
En fait, à force avec les années, j'ai fini par avoir des schémas qui. Au début, quand j'ai commencé à improviser, j'étais toujours surpris par ce qui sortait, parce que c'était le début, tout était nouveau. Et plus le temps passe, et moins des choses nouvelles se présentent. Donc là, j'essaye de me piéger. Je me suis rendu compte récemment que je fais des plans tout entiers d'improvisation, qu'à la seconde où je commence, je pars exactement à l'opposé de ça pour essayer de me piéger moi-même. C'est une des façons que j'ai d'arriver à l'émergence du pur moment d'improvisation qui est celui de l'émergence d'un son totalement nouveau pour moi avant tout et surprenant, un son que je ne suis pas allé chercher mais qui se présente tout seul.
Claude Viala, le peintre que vous êtes, fonctionne de la même manière, il écoute son pinceau, son instrument et il se laisse parfois piéger par lui, emmener vers d'autres routes où vous savez déjà vous parfaitement quand vous commencez une toile où vous allez.
Non, chaque fois que je commence une toile, je ne sais pas où elle va m'emmener, je prends une couleur et je commence à travailler, je regarde au fur et à mesure ce qui se fait, j'analyse tout ce qui se passe, et quand la couleur me met dehors, la toile est finie, j'accepte.
Quand la couleur vous met dehors?
Oui.
Et vous, Marina Chiche, qu'est-ce qui peut vous mettre dehors? Quand est-ce que vous sortez?
Ben, c'est-à-dire qu'en tant qu'interprète, bon, plus de musique classique, de musique notée, non improvisée officiellement en tout cas, l'enjeu est un petit peu différent et en fait il se rejoint ultimement dans une tension entre respect du texte écrit, conscience et connaissance maximale dans le meilleur des cas de la partition et du parcours, et à la fois, toujours et encore, quand on est dans la performance live, c'est dans l'ici et le maintenant, et donc on a toujours... cet au-delà en fait des notes qui va apparaître au-delà de, du contrôle et de la quête de perfection et de construction. En fait, je pense que l'idéal pour un interprète, c'est d'avoir tellement intégré le schéma qu'au moment de rendre la, la partition, on est dans un instant d'improvisation. Où finalement, on est passé dans un stade inconscient. On a digéré littéralement la pièce et on la recrée au moment donné. Donc c'est un paradoxe très, très subtil.
Je ne fais pas bien mon job, je ne vous ai même pas présenté ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Alors j'y vais, Gaspard Claus. Il a commencé à 5 ans, fils du guitariste de flamenco Pedro Soler, avec qui il a signé il y a 2 ans Barland, un album familial, influencé, mais pas un premier de flamenco, dont il dit d'ailleurs que c'est un souvenir familier. Gaspard Claus puise dans des musiques traditionnelles, flamenco, mais aussi musique japonaise, pour composer son propre répertoire, un répertoire très moderne. Mais son univers ne s'arrête pas là, bien au-delà, pop, électro, musique expérimentale, il multiplie les ouvertures. Il est donc à 7 actuellement pour le festival Voix Vive en Méditerranée, un festival de poésie. Gaspard Claus, donc ami de la poésie, bonjour. On recommence au début là.
Bonjour,
voilà.
Comment allez-vous?
Autour de notre grande table d'été nous attend également avec nous Marina Chiche. Elle a commencé le violon à 3 ans et ne l'a pas quitté depuis, passée ensuite par le Conservatoire de Paris. Elle voyage depuis d'une capitale à l'autre, d'un compositeur à l'autre, Bach, Brahms, Prokofiev ou encore Tanguy, un répertoire pluriel. Et elle est ce week-end à Montpellier, où elle se produira demain soir à 20h à l'Opéra Berlioz avec l'Orchestre National de Montpellier, dirigé par Enrique Mazzola, concert de clôture du festival Radio France. Marina Chiche, bonjour.
Bonjour.
Au programme donc ce soir pour vous, Marina Chiche, une méditation de Massenet, une sonate de Rossini, une sérénade mélancolique de Tchaïkovski, un poème pour violon.
Voilà, moi je jouerai le poème de Chausson et la fantaisie sur Tristan et Isolde de Wagner, composée par Waxman.
Vous serez combien sur scène ce soir?
Demain soir. Il y aura l'Orchestre National de Montpellier. Et puis, on sera, en tant que soliste, il y aura, donc on sera 2 violonistes, donc moi-même et Michael Barenboim. Et puis, pour la pièce de Waxman, donc la fantaisie sur Tristan et Isolde, au piano, puisque c'est une pièce très particulière qui est violon, piano et orchestre, qui est assez rare, au piano sera Aurélien Pontier. Voilà, je crois que c'est à peu près. Et puis, à la direction, donc Enrique Mazzola.
Un programme éclectique et on retrouve du classique, on retrouve de la poésie, du romantique, un peu de baroque aussi. Est-ce qu'il y aura de la musique tzigane et du jazz demain soir?
Non, je sais. En tout cas, dans la soirée de clôture, je ne crois pas. Je crois qu'au long de la journée, en fait, il y aura une programmation assez diverse autour du violon, qui est le protagoniste principal de la fête, on va dire. Mais effectivement, il y aura beaucoup d'émotions.
Alors peut-être pas demain soir, mais en général, vous passez aussi d'un style à l'autre. Quel est le courant musical dans lequel vous vous sentez le mieux aujourd'hui, dans lequel vous nagez le mieux?
Je dirais que intuitivement, je suis née romantique, mais je me suis éduquée classique et je me suis éduquée baroque. Et je m'expérimente contemporain. Donc, c'est-à-dire, j'ai grandi avec le grand répertoire de violon, et donc c'est les grands concertos romantiques, et c'est vrai que mon cœur vibrait très, très, très fort, en lien avec aussi beaucoup de littérature, donc ça faisait... Mais j'ai compris, j'ai ressenti ce besoin d'être caméléon, en fait. C'est ça qu'on a besoin à la fois de... Là aussi, un paradoxe, d'être caméléon, s'adapter, voyager dans le temps et dans l'espace. Selon les styles, et aussi trouver sa voix, une identité très forte. Donc c'est très... là aussi, il y a une vraie tension entre les deux.
Vous êtes toute jeune, hein, vous avez 32 ans, donc vous avez encore le temps aussi de vous arrêter ou de trouver définitivement cette identité, ce qui n'est d'ailleurs peut-être pas le but. Hein.
Non, je ne me souhaite pas d'arrêter.
Non, pas d'arrêter, mais de trouver
une identité. Ce que je veux dire, c'est que je pense que la quête, elle est vraiment, littéralement, c'est une quête, c'est un cheminement, c'est la mobilité en fait, c'est vraiment ma devise.
Gaspard Claus, vous, votre cheminement, il commence où?
Comme musicien? Dans le ventre de ma mère, j'imagine. Mon père est musicien, j'ai entendu. Il y a toujours eu de la musique chez nous, ne serait-ce que celle de mon père qui se lève très tôt le matin pour travailler sa guitare.
Donc Marina Chiche est née romantique, vous êtes née flamenco ou née guitare?
Je ne suis pas un enfant du flamenco, j'en connais des enfants du flamenco qui connaissent tous les styles, qui connaissent toutes les règles. Moi, c'était plus comme l'air que je respire. Je sais pas trop de, je sais pas trop de quoi il est composé, mais je nage dedans. Ce qui est intéressant, c'est que avec le temps, donc ensuite j'ai fait des études de violoncelle en conservatoire. Je suis passé par là aussi à Perpignan avec il y a eu Philippe Muller comme, oui. comme professeur en masterclass.
Ah oui, donc ça c'est un point commun.
C'est un grand professeur du Conservatoire supérieur de Paris notamment. Ouais. Donc,
que vous avez tous les deux, non?
Non, moi c'est parce qu'il est voilà, professeur de violoncelle, mais je le connais, bien sûr. Ouais.
Ouais, petit monde. Ouais. Et, mais j'ai dérapé. Moi je suis devenu un vilain petit canard à l'approche de la médaille. J'ai jamais voulu passer aucun examen. Et là j'ai commencé à.
Alors que Marina Chiche est première partout, hein, vous savez. Hein.
Mais il y a différentes manières de déraper. Je suis pour le dérapage.
En première classe.
Je l'ai fait assez franchement. Je me suis vraiment éloigné du conservatoire et je suis allé exactement là où on m'a appris à jouer d'une certaine manière. Et on m'a dit non, là, le son n'est pas beau ici quand on approchait du chevalet. Ou... Et finalement, je suis plutôt allé explorer ces zones dangereuses dans les examens, par exemple, au conservatoire. Et puis aussi, ça commençait à devenir très sérieux. Il fallait se mettre à bosser 10 heures par jour, tout ça. Et je faisais plein d'autres choses dans ma vie. J'avais envie d'étudier à l'université, j'avais envie de voyager. Donc, je suis pas parti sur cette vie-là. J'ai fait de l'improvisation. J'ai plus joué pendant quelques années. J'ai énormément écouté de musique au pluriel, des musiques... très actuelles, des musiques du monde, comme on dit. Et je ne sais pas trop comment j'y suis revenu, mais en y revenant, j'avais fait un tel chemin que j'étais devenu non plus le fils de mon père, mais quelqu'un qui porte un univers avec lui. Et donc lui me présente le flamenco, et moi je lui présente cet univers, ce territoire que je me suis construit, et on se rencontre quelque part entre les deux.
Et en même temps, vous parliez de son. Moi, j'ai aussi lu ou entendu de vous que vous étiez un styliste de l'épure, que la pureté du son, quelque part, était importante pour vous.
Oui, il y a une recherche qui est très difficile. Moi, je me sens encore très, très loin du compte. Et d'ailleurs, j'en parlais hier au festival de Vive Voix, Voix Vive à 7. Là, il y a 111 poètes, donc il y a de quoi converser avec des gens qui aiment ça. Et parler de choses dont on n'a pas souvent l'occasion de parler dans la vie de tous les jours. On a parlé du son et on a parlé du fait que le chaos s'exprime dans le silence, dans les toutes petites choses. C'est là où il faut tendre l'oreille et là où on entend toutes les aspérités, tous les tourbillons qu'il y a dans un petit son. Alors qu'un son joué plein archer, dans notre cas, même rapide, même s'il y a plein de notes, chaque note est pleine et chaque note est franche et directe. Et donc ces chaos-là qui sont très sonores, finalement pour moi ne sont dans la pureté, je trouve le chaos de tout ce qui bouge dans le silence, de tout ce qui grouille dans le silence, de tout ce qui est, voilà.
Marina Chiche, il paraît que votre violon à vous, il a l'âme slave et que vous admirez sans frontières d'ailleurs, hein, des grands violonistes russes, notamment du XXe siècle, puisqu'on parlait de voyage, de balade musicale. Comment s'est faite la rencontre?
Ça date de quand j'étais très très petite en fait. J'ai écouté beaucoup à la maison, on écoutait pas de flamenco, cela dit, on écoutait beaucoup de guitare parce que ma sœur est guitariste classique. Donc moi j'ai grandi avec le répertoire de violon et de guitare. Et on écoutait donc les grands violonistes David Oistrakh, Yasha Heifetz, etc. Et c'est vrai que j'ai développé une fascination pour la Russie. J'étais passionnée d'histoire et de littérature, donc en fait tout ça s'est combiné et ça a fait une espèce de d'affinité élective comme ça avec la Russie. Alors je m'appelle Marina, ce qui était un hasard, mais alors sauf des fois on a pensé que c'était Marina, genre russe. Et donc c'était assez marrant. Donc j'ai appris le russe. Enfin voilà, je suis allée assez loin dans le trip, comme on dit. Et mais c'est vrai que maintenant, bon, j'aime beaucoup reconnecter avec cet univers-là, notamment en jouant avec des collègues russes que j'admire beaucoup. Et c'est vrai que ça réactive quelque chose finalement de très adolescent chez moi.
Il y a une grande différence en fait entre l'école russe et l'école française ou
Ben, moi, je suis un exemple de, en tout cas, je me définis comme telle de métissage en fait d'école. On dit qu'avec la globalisation, il n'y a plus d'identité d'école nationale comme à une époque. C'est pas complètement vrai. Au plus je voyage, au plus je vois que finalement on retrouve des caractéristiques. Mais moi, j'ai été butinée à droite à gauche, donc j'ai eu beaucoup de profs russes, mais j'ai eu aussi des profs hongrois, français. J'ai eu vraiment beaucoup d'apports différents. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup remettre en question. Et moi-même, quand je joue à l'étranger, on m'a eu identifiée à l'école russe, à l'école française. Enfin, voilà, j'essaye de brouiller les cartes.
Et votre violon, il vous accompagne, on imagine, à chaque fois. Est-ce que c'est un instrument, parce qu'il est universel, parce qu'il a aussi, avant vous, beaucoup voyagé, qui reste propice à ce dépaysement musical ?
Probablement.
Il est polyglotte, il s'adapte à tous les genres, à toutes les cultures musicales.
C'est-à-dire que moi, je suis quand même une violoniste classique, entre guillemets, donc une musique classique, donc le violon, pour moi, c'est vrai que c'est un passeport. C'est-à-dire, j'ai été passer une année en Asie, à Taïwan, puis j'habite à Berlin maintenant. Et, enfin bon, je suis un peu globetrotteur, clairement. J'ai la bougeotte. Et c'est vrai que ça m'a. C'est le médium, l'instrument qui m'a donné moi-même accès à différentes cultures. Après, je l'intègre probablement dans ma musique. Mon voyage, il est aussi dans les époques. Comme je vous disais, j'ai fait aussi de la musique baroque à Berlin. J'essaie de faire plus de musique contemporaine, etc. Donc, il y a vraiment un travail d'agglomération et conjuguer des patchwork. On revient dans le batik d'avant, d'inspiration et d'influence.
Gaspard Claus, vous, toutes ces rencontres, elles vous ont amené où, quelque part ? Quels sont d'abord les maîtres qui vous ont vraiment influencé ? Marina Chiche évoquait les siens. Ceux qui vous ont nourri, qui vous ont donné envie d'aller vers ce décloisonnement, cet éclectisme musical ?
Ce sont, pour certains, des maîtres que je n'ai pas rencontrés. Tom Cora. Tom is still dreaming est un petit hommage discret à Tom Cora. Tu connais ?
Du nom que vous donnez donc à toutes vos improvisations.
Voilà, c'est ça. Parce que j'ai beaucoup... quand j'ai découvert qu'on pouvait jouer de cet instrument autrement, j'ai aussi rencontré d'autres violoncellistes qui sont Tom Cora en tout premier lieu, qui ont exploré des sonorités très particulières de cet instrument. Et Tom Cora, je n'ai connu que des enregistrements de lui, et je lui ai piqué énormément de choses, donc ça vaut bien le coup de lui rendre hommage à chaque fois que je joue.
Voilà. Il n'y a que des voleurs autour de cette table, Claude Viala. Hein,
c'est la définition.
C'est incroyable.
Rappe tout.
Elle est belle, cette jeunesse aussi, non ? Vous ne trouvez pas qu'il mélange toutes ces influences, qui voyage, qui s'ouvre à tout ?
Ils sont en train déjà de construire autre chose, et c'est ce qui est important. Il faut arriver à se démesurer et à vraiment être toujours dans la modification.
Oui.
Michel Hilaire, est-ce qu'on leur dresserait pas un musée, là, ici, tout de suite, dans la cour du musée Fabre ?
On va attendre un petit peu. Je pense que le musée se mérite. Hein. C'est vrai que c'est un endroit où il y a quand même tous ces grands noms, donc ça peut être parfois toujours un peu intimidant. Et je pense qu'il faut explorer, il faut voyager, il faut, que vous disiez, s'approprier énormément d'influences, de cultures, de... Voilà, et puis peut-être après... Penser à une rétrospective comme Claude Viala, mais Claude Viala a quand même une longue carrière derrière lui, puisque les premières œuvres qu'on a sélectionnées, elles ont été faites en 1956, donc vous voyez, et les dernières en 2014. Donc là, il y a un spectre très très large.
Oui, mais c'est une rétrospective de votre vivant, Claude Viala, et ça, on aime bien. Hein,
en tout cas, dans l'immédiat, j'ai aucune envie de me retrouver dans un musée. Je suis très bien au bord de l'eau à Sète, à me balader de ruelle en ruelle.
Gaspard Claus, Marina Chiche, qu'est-ce que vous gagnez à associer vos instruments de prédilection avec d'autres instruments ? Vous, Marina Chiche, votre violon avec du piano, par exemple, et vous, Gaspard Claus, le violoncelle à la guitare ?
Ben, la collaboration avec d'autres artistes et d'autres musiciens, bon, c'est évidemment une collaboration, une rencontre, un dialogue humain. qui évidemment est mis en son. Donc il y a tout cet apport en fait d'un autre imaginaire. Donc d'un coup on est plus un monde mais deux, on essaie de trouver des points de rencontre. Dans l'expérience sonore aussi, c'est très intéressant pour se déformater soi-même, puisqu'on porte ses limites, et aussi c'est la formation qu'on a reçue, que moi-même j'essaye de déformater, mais c'est vrai qu'à la rencontre de l'autre, on se retrouve soi-même, bon, probablement, de plus en plus.
Il y a ce magnifique piano là derrière, et aucun d'entre vous, ni vous Gaspard Claus, ni vous Marina Schisch, avait choisi de sauter dessus alors qu'il est superbe. Il a été installé là aussi pour les équipes de notre radio sœur France Musique qui fait régulièrement des émissions dans cette cour du musée Fabre à Montpellier.
Moi, je suis le dernier des multi-instrumentistes. Justement, je laisse le soin de jouer d'autres instruments aux gens avec lesquels je rentre en collision quand on joue ensemble. Mais je joue même pas du violoncelle, je joue ce violoncelle.
Voilà. Il n'y en a qu'un ?
Ouais, ça a déjà pris énormément de temps pour que je le comprenne et qu'on s'entende bien. Je vais rester encore un petit moment avec lui.
Parce qu'on l'a rencontré récemment autour de la grande table d'été, Mr. Krakauer, qui nous racontait que lui, le clarinettiste, il en avait foison des clarinettes dans son placard.
Hein. Ça coûte un peu moins cher.
Probablement, oui, ça y a pas de doute.
Vous, combien de vos violons,
Marina Schisch ? Moi, j'en ai qu'un qui m'accompagne depuis presque 15 ans. Je crois que c'est mon plus fidèle compagnon. Et je pense que dans l'instrument seul, en tout cas l'instrument à cordes seul, il y a une vraie adéquation, dans le meilleur des cas, avec une parole, un monologue d'acteur.
Alors on continue à s'accrocher à vos cordes, à vous, Claude Viala, parce que des cordes, il y en a aussi beaucoup dans cette rétrospective. Je n'ai pas réussi une fois, vous avez remarqué, à dire le mot correctement du premier coup depuis le début de cette émission. Hein. Rétrospective, voilà, ça va être ma punition, je pense, jusqu'à dimanche soir. Des cordes aussi avec le violoncelle de Gaspard Claus et des cordes aussi et toujours et encore et enfin avec votre violon, Marina Schisch. Je vous propose de prendre la route des festivals tout de suite, et notamment du Festival d'Avignon. C'est la dernière fois, dernier jour, avant un week-end de clôture, là encore, cette semaine. Avignon, suite et fin, dernier numéro du journal d'un festival de Joël Gaillot. Vous avez choisi, Joël Gaillot, de clore ces trois semaines à Avignon par une rencontre avec un metteur en scène qui vous est cher, c'est l'Allemand Thomas Ostermeyer, habitué, lui aussi, de la Cité des Papes.
Bonjour Olivia, en 1999, il faisait l'événement au Festival d'Avignon avec trois spectacles choc. Depuis, il est devenu un fidèle de la Cité des Papes ainsi que le chouchou du public français. Il faut dire qu'il ne déçoit jamais, ou rarement, Thomas Ostermeyer, qui dirige à Berlin le Grand Théâtre de la Schaubühne, est un artiste dont le talent s'exerce avec virtuosité, quel que soit le texte qu'il met en scène. Du synopsis de Fassbinder, le mariage de Maria Braun, il a fait un spectacle tout en fondu enchaîné, d'une extrême fluidité portée par une troupe d'excellents acteurs. Un vrai régal. Mais revenons avec Thomas Ostermeyer sur ce premier passage à Avignon en 1999 et l'importance qu'il a eue pour nous, spectateurs, mais aussi pour lui.
C'était assez important d'avoir cet succès en France, qu'on n'a pas eu en Allemagne d'ailleurs. Pour moi, pour les premières années à la tête de la Schaubühne, c'était très très important d'avoir cet écho français, cet succès français. Sinon, j'aurais terminé le travail de la direction artistique à la Schaubühne, parce qu'à Berlin, c'était le contraire. Les premières années... à Berlin, c'était dur, il fallait se battre.
Donc vous devez la direction de la Schaubühne au Festival d'Avignon en partie.
Oui, si vous voulez bien, il n'y avait pas de politiciens, il n'y avait personne qui m'a approché en disant « tiens, démissionne ». Mais moi-même, je me suis demandé pas mal de moments, est-ce que ça vaut la peine de continuer ? Et puis on est allé en France, on a joué à Paris, à Lyon, n'importe où, à Avignon. Et ça a créé un si grand événement et on a eu si beaucoup de succès que je me suis dit, tiens, peut-être ça a du sens de continuer.
Pourquoi vous aimez particulièrement venir à Avignon, Thomas Ostermeyer ?
Moi, j'adore vraiment cette mélange de public qu'on ne retrouve pas dans les salles de théâtre allemand. Il y a encore cette notion d'un théâtre populaire de Jean Villard. Il y avait un spectateur qui m'a approché il y a 5 ans en me disant « Tenez, monsieur Ostermayer, on vient chaque année pour voir des spectacles. On vient du nord de la France, on n'a pas beaucoup d'argent. On habite sur le camping, on mange des sandwichs toute la journée juste pour voir les pièces de théâtre. » Et ça, c'est extraordinaire. Ça, on ne peut pas retrouver en Allemagne.
« Warum fragen Sie eigentlich nicht nach Hermann? Sie müssen ja nicht glauben, dass er wiederkommt. Es reicht, wenn ich es weiß. »
Alors Fassbinder, lui, c'est pas forcément avec une pièce de théâtre que vous arrivez ici à Avignon, c'est avec Le mariage de Maria Braun que vous avez créé, je crois, en 2008. Est-ce que vous avez retravaillé ce spectacle pour
beaucoup,
venir?
Beaucoup, c'est une nouvelle distribution. On n'a pas joué le spectacle pendant 3 ans à Berlin. Maintenant, c'est toute une nouvelle distribution. On a répété pendant 3 semaines et j'étais bouleversé du fait que ça résonne encore plus aujourd'hui, cette pièce, qu'à l'époque où je l'ai créée à Munich, 2008.
Qu'est-ce qui résonne ?
Il y a une très belle phrase dans le scénario qui dit « C'est une schlechte Zeit für Gefühle », c'est Maria qui dit ça, c'est un mauvais temps pour les sentiments. Et ça résonne beaucoup avec une situation en Allemagne actuelle, où on parle beaucoup du modèle allemand qui est complètement ridicule à mon avis, parce que le modèle allemand, ça veut dire qu'il y a une très très petite partie dans la société allemande qui est super riche, il y a une grande partie des gens dans la société allemande qui sont devenus très pauvres, et cette partie de la société grandit de plus en plus. Ça veut dire travailler plus, gagner moins. C'est ça le modèle allemand, austérité absolue. Et je ne crois pas que ça soit un modèle pour le reste de l'Europe.
On vous attend, Thomas Ostermayer, dans ce festival d'Avignon, comme le metteur en scène politique. Est-ce que vous avez confirmé cette attente?
Peut-être il y a une belle expression en français qui dit « artiste engagé ». Peut-être que je suis quelqu'un qui pense beaucoup sur les questions politiques, sociales, mais c'est plutôt l'homme privé ou l'homme du public ou l'homme public qui pense comme ça, qui essaie de s'exprimer comme ça. Mais dans mon travail sur scène, dans la salle de répétition avec mes comédiens, les questions traitées, ce sont des questions du jeu, ce sont des questions des émotions dans les situations de la pièce. Je ne suis pas en train de trouver un théâtre engagé, un peu banal, simplifique ou simpliciste. Alors, je me doute sur cette notion de mettre en scène politique.
Eine weiße Hochzeitskutsche kommt. Dass ich eine Remilitarisierung Deutschlands durch Aufstellung einer deutschen Armee ablehne.
Voilà une pièce qui sera présentée à Paris et beaucoup d'autres dates. À Paris, ce sera en juin de l'année prochaine au Théâtre de la Ville. La semaine dernière, un auditeur nous fait remarquer que votre invité Joël Gaillot, Francine Berger, avait à tort attribué l'interdiction de La religieuse de Diderot, le film de Jacques Rivette, à Hervé Bourges. Cette interdiction revient en réalité à Yvon Bourges, homme politique, longtemps président de la région Bretagne et qui était alors secrétaire d'État à l'information. On était en 66 quand cette interdiction a eu lieu. Un grand merci à cette oreille avertie qui nous aura permis de rectifier. Retrouvez Joël Gaillot à la rentrée pour son émission hebdomadaire Changement de décor consacrée au théâtre de 20h30 à 21h tous les dimanches. L'horaire n'a pas changé, le lieu non plus, ce sera sur France Culture. Un grand merci aux équipes techniques de Radio France qui ont permis cette liaison entre Avignon et Paris. Arles ou encore Montpellier tout juillet avec Joël Gaillot. Un grand merci à Jean-Christophe Perrin, à Guillaume Réalan, à Virginie Noël et surtout à Geneviève Méric pour leur bienveillance. C'est donc la fin de cette 68e édition, résolument intranquille, du Festival d'Avignon. Elle se terminera sur un concert demain des Têtes Raides sans Jeanne Moreau qui était prévue initialement. Vous n'allez pas passer par Avignon tous les deux ?
Pas cette année.
Non, ça va être très calme maintenant. Ça va être un beau moment pour aller y jouer, Gaspard Claus. On vous retrouve dès ce soir à 7, en espérant que la météo tienne le coup, parce que vous allez jouer dans la rue avec votre bande de copains.
Ouais, tous les musiciens que j'ai croisés cette semaine, je les ai invités à me rejoindre sur scène, sur un, non pas un bœuf, mais une conduite que j'ai écrite dans le train tout à l'heure. On verra ce que ça donne.
Donc là encore, un pro. Et demain, par contre, 15-16 heures avec une poétesse irakienne. Ouais. C'est un petit peu plus organisé ?
Pas du tout.
Pas
on
du
se rencontre 5 minutes avant de commencer et on essaie de se sentir. Le poème est d'abord dit dans la langue originale, donc on ne sait pas de quoi il s'agit, donc on est un peu à l'aveugle sur l'improvisation. Ensuite, il est traduit par un comédien et là, on se rend compte qu'on était complètement à côté de la plaque ou pas. Et ça dure une heure et c'est très sensible. Ça m'a un peu fait peur au début. Mais finalement, il y a...
Ça y est, vous prenez vos aises avec ça, avec cette liberté.
Ouais, je commence à m'amuser.
Vous allez devenir le roi de l'improvisation. Marina Chiche, on rappelle aussi les dates du concert, des concerts à venir. Alors, en tout cas, la soirée de clôture demain du Festival Radio France de Montpellier, ce sera à 20h à l'Opéra de Montpellier avec, là encore, vous serez loin d'être seul, avec tout l'Orchestre National de Montpellier. Un grand merci à vous deux. J'ai oublié de citer Véronique Lamandour qui a réalisé toute cette semaine la chronique de Joël Gaillot, la grande table d'été sur la route des festivals. Dans quelques heures, nous serons à Marseille pour une rencontre diffusée la semaine prochaine avec Ibrahim Malouf, un jazzman en plein préparatif du concert déjà complet de ce soir à 21h dans le cadre du festival Jazz des 5 continents. Il a invité à se joindre à lui Michel Portal, Vincent Segal, la chanteuse Assa, le pianiste Éric Lénini et Thomas Dutronc. Belle affiche. On ne pouvait pas manquer ça, on ne pouvait pas vous faire manquer ça. Merci beaucoup au Musée Fabre de nous avoir accueillis. Merci aussi aux équipes techniques de Radio France qui ont savamment orchestré ce direct. Luc Jean Rédeau a réalisé cette émission avec Pascal Morel, chargé de production, Julien Bénet, Alexandre James, Adrien Gaza et Patrick Muller. Merci aussi à Clémence Marie qui l'a préparé, épaulée à Paris par Claire Poinsignon, Daphné Abgral, Claudia Prolongeau et Adrien Nazelli. Toutes les infos sont à retrouver sur le site de la Grande Table d'été sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous laisser vos commentaires, nous réécouter et nous podcaster.